sound all the way from Bronx, New York. Also featuring Canada's finest sound, Little Thunder Sound, Nemesis Sound, DJ Taurus, Little Vicious, The Country Boy, Crystal Sound International, DJ Fire Jones. Place to be at Clock Tower Beach, All Port, Montreal, Canada.
Starting from 11 a.m. till 10 p.m.
All the early bird ticket right now for $30.
A regular ticket for $40, $50 at the gate.
Right.
Fully endorsed by Mixing Lab.
Thank you. Building on fire. I have been sent searching. What am I searching for? touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça. Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique local qui parle de profilage racial. Donc pour le dernier épisode de la session d'hiver 2022, on reçoit un invité exceptionnel, donc on reçoit Fabrice Ville, qui est un coach certifié en développement intégral, avocat et anciennement entraîneur de basket. C'est aussi un des instigateurs du documentaire Briser le code, qui traite d'enjeux de racisme vécu par les personnes racisées et autochtones au Québec. Donc, bienvenue.
Merci. Puis, je vais recevoir le compliment d'être un invité exceptionnel. Et j'ai aucun doute que les autres invités étaient tout aussi exceptionnels.
Absolument. Et puis, dans le fond, c'est ça, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler d'engagement, on va parler de profilage, de racisme systémique, de tous ces enjeux-là à la lumière un peu de la société québécoise. Donc, c'est ça, comme j'ai mentionné, vous êtes avocat, vous êtes aussi collaborateur à la presse. Vous avez aussi votre balado qui s'appelle « Sac passé » aussi. Vous êtes aussi très vocal sur les questions comme le profilage racial, etc. Donc, pour commencer un peu, peut-être parler de votre implication, l'engagement social. Est-ce que votre implication et votre activisme a pris naissance en raison de vos études en droit ou est-ce que c'était avant ça? Est-ce que c'était pendant votre pratique? Donc, comment est-ce que ça s'est développé un petit peu?
Ouais, bonne question. C'est drôle parce que quand je regarde plusieurs adolescents, adolescentes ou jeunes adultes aujourd'hui, je vois vraiment des personnes qui sont hautement impliquées et qui m'impressionnent de par leur implication parce que j'ai l'impression qu'à un certain niveau, leur implication dépasse largement celle que moi j'avais quand j'étais au même âge. J'ai jamais été la personne qui se définissait par un engagement social ou un engagement communautaire particulier durant l'enfance et l'adolescence. Mais par contre, ce que je nommerais, c'est deux choses. La première des choses, c'est le fait que mes parents étaient quand même relativement impliqués. Entre autres, je pense à mon père qui était ingénieur et qui... faisait partie de ce qu'on appelle l'Association des ingénieurs haïtiens haïtiano-canadiens. Donc, ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens. Puis, c'est une implication, en fait, qui mobilisait non seulement les regroupements d'ingénieurs d'origine haïtienne au pays, puis particulièrement au Québec, mais qui regroupait, en fait, l'ensemble de la communauté. Puis, c'était pour moi de voir mes parents faire du bénévolat. Puis moi aussi, en fait, des fois, c'est juste être présent à la table pour les billets quand il y avait des événements, les brunchs, ce genre de choses-là, que j'ai fait relativement peu, mais je ne me rendais pas compte que c'était une forme d'engagement. Autrement, mon engagement principal, ça a vraiment été le sport. Donc, j'ai été moi-même athlète, joueur de basketball. Des fois, j'ai vu athlète, c'est souvent... les gens qui performent à un niveau élite, là, mais j'ai moi-même été en fait sportif, joueur de basketball au secondaire puis au cégep. Et j'ai été coach, donc le fameux donc, le rôle de coach, ça a été une implication, pas au sens activiste, mais vraiment une implication quand même de veiller à m'impliquer auprès de jeunes dans leur apprentissage, dans leur développement. Ce qui m'a mené à devenir moniteur de camp aussi, durant les années 2000. J'ai été moniteur de camp pendant 3 ans auprès de Jeunes de la Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est un camp qu'on offrait en Outaouais, en nature, mais au service de Jeunes de la Pointe-Saint-Charles. Et en fait, je nomme tout ça, c'est drôle, parce qu'après ça, au début de mon âge adulte, après quelques implications au niveau universitaire, je me suis impliqué un peu auprès du journal étudiant. Ça a été en fait ma première expérience d'écriture dans un contexte d'un journal. Ça a été le journal étudiant. J'écrivais des chroniques sur pas très sérieuses en fait, assez humoristique sur le milieu étudiant, les observations que je faisais. Et
le journal de l'Université de Montréal, de la faculté de droit?
Oui, exactement. Le Pigeon. Le Pigeon dissident. Ouais, ça a été donc de, mm-hmm. en 2000, de 2003 à 2006, j'écrivais une fois de temps en temps dans le Pigeon dissident. Donc, bien sûr, les gens qui nous écoutent connaissent peut-être. Et là, j'ai nué à différentes choses. Puis après, bon, je me suis impliqué sur, également dans un comité sur le droit du sport que j'ai participé à créer dans le contexte de l'université. Puis, au début de ma carrière, en fait, d'avocat, j'ai surtout été impliqué, je cherchais les applications pour Haïti, en fait, particulièrement parce que, il y avait la Jeune Chambre de commerce haïtienne qui était pas tant au service d'Haïti, mais qui était en fait le soutien de la communauté haïtienne ici. C'est une plateforme de réseautage beaucoup pour les jeunes professionnels et entrepreneurs d'origine haïtienne. Et en 2010, quand a eu lieu le tremblement de terre en Haïti, qui a fait en fait beaucoup de décès, ça a été mon intention en fait de voir où était le moment où, à partir de Montréal, ou les lieux où à partir de Montréal, je pourrais m'impliquer. Donc, quand je parle de tout ça, ce qui me vient à l'esprit, bien sûr, pour 3 points, il fait partie de ma vie, organisme qui a été fondé il y a maintenant aujourd'hui 10 ans, qui est en fait un organisme qui est vraiment, d'abord et avant tout, un organisme d'intervention sur le terrain auprès des coachs et des jeunes. Ce sont ces expériences-là qui ont particulièrement informé mes réflexions sur les inégalités et qui ont nourri ce qui est aujourd'hui peut-être un peu plus de la forme de l'activisme. Donc, je vois des adolescents et des adolescentes aujourd'hui, à l'âge de 12, 13, 14 ans, avoir un esprit vraiment plus militant et on les voit, entre autres, par la technologie qui était moins accessible à l'époque où moi, j'avais le même âge. Et ils ont une conscience sociale beaucoup plus développée que ce que j'avais au même âge. Mais le fait de m'impliquer directement sur le terrain et d'être curieux par rapport à ces choses-là, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé à comment les dynamiques d'un système ou de différents systèmes influencent la vie de tout le monde sur le terrain. Mais ce n'est pas quelque chose qui était inné chez moi, loin, loin, loin de là. Mon implication première ou le core de mes implications, ça a beaucoup été apprendre à des jeunes comment lancer des ballons. Mais à partir de là, comment ça s'est développé par la suite, en fait.
Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose un peu qui s'est cultivé aussi avec le temps et avec vos expériences de vie.
Je pense que oui. Je pense que oui. On peut se tutoyer en passant. Hein? Je,
OK.
On peut se tutoyer. Je pense que oui. Pour moi, ça fait en sorte que dans ma vie, à tout le moins, j'essaie de parler des enjeux qui nous concernent, les grands enjeux de société, mais à partir d'une place qui est connectée à des expériences vécues concrètement sur le terrain. C'est pas mal cet élément-là, oui.
Absolument. Puis je pense que c'est vraiment intéressant de mentionner aussi qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, bien, ça fait en sorte que les jeunes, ils ont tellement accès à des plateformes, à des pages. Ils peuvent découvrir des organismes communautaires, ils peuvent découvrir toutes sortes de personnes qui peuvent les pousser à justement être un peu plus militants, un peu plus activistes à un jeune âge. Donc,
tout à fait. Puis c'est drôle parce que je parlais à... j'étais sur un panel récemment et il y a la chroniqueuse Aurélie Langteau qui mentionnait que oui, c'est une bonne chose d'ailleurs, les réseaux sociaux, parce que ça permet de véhiculer des messages, ça permet de propager en fait rapidement des messages qui autrement ne se partageraient pas. Donc, il y a une communication qui facilite en fait certains mouvements. La viralité se trouve non seulement quand on va avoir des vidéos humoristiques, mais ça, les messages sociaux, des hashtags, comme on en a vu par rapport à un ensemble de mouvements, prennent naissance souvent dans les réseaux sociaux. Et en même temps, ce que Aurélie mentionnait, c'était le fait que il y a quand même une nécessité de s'organiser hors la sphère numérique pour vraiment se structurer, se parler de qu'est-ce qu'on met en place comme projet. Donc, c'est un peu une combinaison des deux qui me semble aussi pertinente.
Absolument. Puis justement, en parlant un peu d'engagement, on va aussi mentionner un peu l'engagement qui est en lien avec le racisme systémique, le profilage racial, comme c'est un podcast qui discute de profilage racial. Donc, vous avez réalisé différentes œuvres. Ah oui, on peut se tutoyer, je m'excuse. Sur la lutte contre la discrimination, des implications sociales au sein de différents organismes, dont la clinique juridique de Saint-Michel, de par notre marathon sur le profilage racial. Puis, donc, c'est ça. Est-ce que, justement, est-ce que vous considérez un petit peu comme un porte-parole un peu du mouvement antiraciste au sein de la société québécoise, montréalaise, ou est-ce que vous trouvez que c'est un titre un peu trop, trop lourd?
Ouais, ben, c'est un titre... que je souhaite pas revendiquer, disons-le comme ça. Mais je suis capable de voir pourquoi est-ce qu'il m'est attribué à certains égards. Ce que je veux dire, c'est que si on prend en fait des éléments d'historique des récentes années, j'ai commencé à écrire au devoir en 2016, donc de 2016 à 2018. Et j'écris dans la presse depuis 2018. Donc, ça fait depuis maintenant 6 ans que j'écris dans l'espace public, régulièrement sur un ensemble d'enjeux, mais beaucoup par rapport aux enjeux de racisme et de discrimination. Où il y avait relativement peu d'intérêt par rapport à ces questions-là. Donc,
absolument.
En 2016, en 2017, en 2000, il y a eu quelques vagues par rapport à certains enjeux, dépendamment des phénomènes de société, mais l'intérêt collectif sur ces enjeux-là était relativement minime, comparativement à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je campe ça parce que on en parlait peu. Il y a encore relativement peu de diversité ethnoculturelle et raciale dans le milieu médiatique. De sorte que je faisais partie de quelques personnes qui en parlaient et il n'y a pas énormément de personnes qui parlaient de ces enjeux-là. Je rajouterais à ça le fait que, bon, en parallèle de l'écrit, il y a eu un peu je faisais un peu de chronique à la radio, à la télévision, mais pas de manière très régulière. Et juste avant la pandémie, donc on parle de janvier 2020, est sorti le documentaire « Briser le code », dont je suis un des instigateurs, qui parle justement, comme tu mentionnais en introduction, la situation des certains enjeux relatifs aux personnes racisées autochtones à Montréal. Bien, « Briser le code » a quand même suscité un certain intérêt, et c'était un des rares documentaires qui parlait de ces enjeux-là. Et là, on parle uniquement de 2020. Aujourd'hui, je pense qu'on regarderait le documentaire, on dirait, ben oui, c'est la norme, il faudrait en parler, mais c'était même pas gagné uniquement en janvier 2020. Et le malheureux décès de George Floyd, suivi du décès de Joyce Echaquan, dans des circonstances inacceptables, a généré une ouverture et un engouement sans nom à parler de ces choses-là. Mais dans ce contexte-là, ce qui est arrivé, en fait, c'est le fait que il y avait une anémie de personnes qui étaient connues des médias. Donc, il y a eu un effet tourbillon, en fait, de demandes dans l'espace médiatique. Donc, en l'espace de quelques semaines, j'avais une présence dans l'espace public, mais ça a été une surprésence rapidement combinée aux réseaux sociaux. Puis ce phénomène-là fait en sorte que, de un, les médias aiment les porte-paroles. Donc, ils vont vouloir trouver leur personne parler de certaines choses, et je pense que c'est un enjeu, c'est un défi, et je peux pas nier le fait que j'ai été, et je crois être encore une personne qu'on appelle souvent, et des fois même un peu trop souvent par rapport à certaines questions. Et de deux, en nommant ça et en sachant que je souhaiterais en fait une plus grande diversité des voix dans les médias, c'est ça que moi je ne revendique pas le rôle de porte-parole, mais je suis bien conscient de la responsabilité de quand je suis à l'écran, qu'il n'y en a pas nécessairement beaucoup qui l'ont. Donc, à la fois que je ne revendique pas la tribune, je peux reconnaître que pour plusieurs personnes qui n'ont pas une tribune dans l'espace médiatique traditionnel, ben ce que je dis peut être représentatif ou non de ce que certaines personnes souhaiteraient dire par rapport à certains enjeux. Longue réponse, importante.
Oui, absolument. Puis je pense que plus on peut avoir de diversité dans le discours, plus on peut avoir de personnes présentes dans l'espace public, puis mieux ça sera. Je pense que c'est important de le mentionner. Puis justement, vous avez mentionné le documentaire Briser le code. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par le code, justement?
Ouais. Le code, en fait, c'est une définition qui est indirectement inspirée de la notion de code switching, par lequel les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes noires vont devoir changer de code de fonctionnement de manière à se fondre dans la majorité ou dans un groupe dominant sans déranger. C'est comme ça qu'on l'a défini. Donc, on a travaillé très fort sur la définition qu'on voulait y attribuer. Je me souviens, c'était intéressant comme travail. Mais quand on parle de code switching, moi, je n'ai pas d'enjeu, puis ça arrive de manière courante qu'on va ajuster son comportement pour s'adapter dans un échange à deux, dans un groupe. Le défi vient quand il y a une norme homogène qui existe et qui est présente, et soit elle est explicite ou implicite. Et les personnes qui sont confrontées, qui ne répondent pas nécessairement à cette norme-là, en viennent à nier une partie de leur identité pour se fondre. Et ça, c'est le phénomène qu'on a tenté d'exposer à travers le témoignage de différentes personnes, des personnages que j'admire, en fait, des personnes, là, je pense à Pierre-Alexandre, Sonia, André, qui ont fait partie, en fait, du documentaire, et d'autres personnages également en périphérie qui ont parlé, en fait, de leur expérience de vie et de l'expérience du code dans le contexte québécois, puis comment le code pouvait se manifester.
Mm-hmm. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant aussi de voir que, justement, c'est normal de s'adapter un peu à notre environnement, mais à un certain point, ça devient vraiment comme un fardeau sur les épaules un peu des personnes racisées autochtones et personnes noires. C'est comme si on a comme deux identités, on est deux personnes différentes.
Exact. Et c'est correct, je crois que c'est correct d'avoir de multiples identités. On a tout le monde de multiples identités, même des fois on n'est pas la même personne dans la sphère familiale, on n'est pas la même, on se présente pas la même manière dans la sphère familiale par rapport à la sphère professionnelle ou la sphère étudiante, mais c'est vraiment cette question-là de quand on voit qu'il y a un code imposé ou une manière d'être qui est imposée pour se sentir accepté, c'est là où ça devient un problème, en fait.
Absolument. Puis justement, en parlant un peu du vécu des personnes racisées, de leur réalité, du code switching, etc., il y a aussi ton podcast qui s'appelle Sac Passé. Est-ce que tu as décidé de créer ce podcast-là dans le but de mettre en lumière le vécu des personnes racisées? Est-ce que c'était quelque chose qui était à l'origine un peu de la création de ce podcast? Puis aussi, comment ça s'est déroulé, la mise en œuvre du podcast de manière générale à ce niveau-là?
Ouais, pour Sac Passé est d'abord né de l'idée ou du constat. Mais d'abord, je vais commencer par dire une chose. Comme plein de personnes, j'avais le goût de faire un podcast. Donc ça, c'est une des choses. Puis on prend des personnes qui ont fait le choix de faire un podcast. Fait que commençons par ça. C'est comme un peu... j'ai pas la prétention d'avoir réinventé la roue comme faire un podcast. Plein de monde, justement, la clinique en a fait un. Et il y a plein de personnes qui ont choisi de se lancer dans l'aventure du podcast. Et tant mieux, c'est une aventure que je trouve super intéressante. L'autre chose, si je pense à mon souhait plus spécifique, j'ai pas décidé de lancer un podcast pour lancer un podcast uniquement. Pour moi, je trouvais qu'il manquait et qu'il manque encore dans l'espace public d'endroits où on peut avoir de la réflexion de manière curieuse, de manière profonde, Puis aussi de manière brute, dans le sens que une entrevue dans l'espace médiatique va être très formatée, même en direct. Il y a vraiment un code, on parle de code, il y a un code qui permet qui fait en sorte que on peut pas des fois aller dans certaines nuances dans une entrevue de 2 minutes, dans 3 minutes, de 5 minutes. Et là, on est pris à devoir avoir quelque chose de très, très, très formaté. Et il y a un ensemble d'enjeux de société qui mérite d'aller dans la profondeur et qui mérite aussi de se permettre de ne pas dire quelque chose de tout à fait parfait. Et dans l'espace, quelque chose de convivial, est-ce qu'on peut faire tomber les barrières pour se parler d'une manière qui nous expose pas à des scandales à tout bout de champ parce qu'on a dit une phrase qui dépasse d'un fil de cheveux à dans une entrevue en direct à Radio-Canada, par exemple, ou à Télé-Québec. Le défi... Bon, ça, c'est une des choses. Donc, pour moi, la question de l'espace de réflexion brute, c'est curieux. C'est ça qui m'a beaucoup animé. Après, dans la démarche, moi, j'ai eu le soutien d'une amie qui s'appelle Élise Daniel, pour conceptualiser le podcast et pour faire réfléchir à c'était quoi l'intention finalement, de faire dégager l'intention. C'est une personne qui est une stratège de marque qui m'a donné un soutien, qui m'a donné un soutien dans l'élaboration. Et pour revenir d'ailleurs par ailleurs au niveau du la vision, dans l'esprit du podcast, c'était pas une intention, ça n'est pas une intention explicite de donner une voix ou d'offrir une tribune, pas tant une voix, les gens tous une voix, d'offrir une tribune aux personnes racisées ou des personnes noires, les personnes autochtones, parce que j'ai le souhait que ce podcast-là puisse parler d'un ensemble d'enjeux qui ne sont pas uniquement relatifs à ce que vivent les personnes racisées, noires et autochtones. Ceci dit, dans les valeurs et dans les processus qu'on met en place, c'est clair que je valorise et je trouve important que ces voix-là soient entendues. Et donc, il y a quand même beaucoup d'accent d'accorder le micro à différentes personnes qu'on entend relativement peu. Donc, des personnes comme Aisha Robinson, qui est une femme noire que j'admire énormément, ou encore des personnes comme Kéké Calix qu'on connaît dans la sphère des réseaux sociaux, mais moins dans l'espace traditionnel, c'est quelque chose qui m'apparaît pertinent. Donc finalement, je nomme deux personnes parmi tant d'autres. Il y a des personnes qui sont des personnalités publiques qu'on connaît, qui sont plus connues dans l'espace médiatique, des Safia Nolin de ce monde qui ont passé au podcast. Mais par contre, encore une fois, c'est ça, il y a des personnes qu'on connaît moins, en fait, qui ont également été au podcast, comme une Dorothy Rowe, qui est la présidente et la fondatrice d'Audace au féminin, qui soutient notamment le leadership et l'entrepreneuriat au niveau féminin. Je conclurai en nommant le fait que le podcast nécessite aussi un soutien technique. Donc, il y a Neolabs avec qui on travaille, la clinique aussi travaille avec Neolabs depuis les tout débuts de notre côté. Donc, c'est sûr et certain que c'est nécessaire d'avoir une équipe qui travaille au-dessus de cette technique. Le visuel fait par Lou Gart, qui fait des visuels extraordinaires. Donc, je les nomme pour illustrer la musique avec Chachou. Là. Donc, j'utilise le temps que j'ai pour parler des gens qui collaborent, mais... Ça prend en fait aussi un produit de qualité pour que ce soit agréable. Ça, moi, je pense que dans le design de ce podcast-là, je ne me cacherai pas non plus du fait qu'il est arrivé dans la dernière année d'avoir accès à des revenus qui m'ont permis aussi de pouvoir investir là-dedans. Parce que le podcast aussi, il mérite pour avoir un produit de qualité, il faut le payer. Et ça, c'en est un défi aujourd'hui de dire, OK, ben, comment est-ce que je le fais vivre pour pouvoir le financer? Et je suis en réflexion sur cette question-là présentement.
Absolument. Puis justement,
Je pars, mais j'ai confiance que tu vas m'interrompre. J'ai l'impression que je pars dans des très, très longues réponses, mais n'hésitez pas à me couper au besoin.
Non, c'est... C'est très intéressant, ça me fait réfléchir, c'est plus pour ça. Mais je me demandais justement dans la mise en œuvre, dans toute la façon de penser le podcast, c'est quoi qui a été pour toi comme un des plus gros apprentissages, on va dire, de cette expérience-là, parce que j'imagine que c'est la première fois que tu te lances dans le monde du podcast, là. Je sais pas trop comment dire ça.
Ouais, ben, c'est effectivement ma première expérience de podcast. Après, c'est sûr et certain que mon expérience de prise de parole dans différents contextes, que ce soit de faire de la conférence, des panels ou encore animer des panels, modérer des panels, m'aide. L'expérience qui m'a le plus soutenu, je dirais, c'est vraiment en fait qu'est-ce que je fais dans le contexte de Pour Trois Points et d'autres contextes également, mais l'expérience de coach. Donc, on parle de coach personnel, professionnel qui est vraiment dans une intention proactive d'être à l'écoute, de poser des questions, puis de vraiment être présent à la conversation, de qu'est-ce qui est émergent. Donc, d'avoir, oui, un plan, mais de naviguer puis de danser avec la personne. Moi, mon plus grand plaisir dans le contexte de ça passé, c'est ces moments-là de conversation. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne d'autre que la personne avec qui je parle. Puis c'est comme une danse que je vis avec la personne. Puis c'est une danse qui se déroule par la parole, le silence, l'émotion qui est vécue, l'énergie qui est présente. C'est ce plaisir-là, moi, qui me revient comme étant un de mes ahas du podcast. Et chaque invité, tous les invités, j'ai eu des moments où je me suis dit « Wow, je vis quelque chose de vraiment précieux avec la personne. » Donc, j'ai comme l'impression, j'ose espérer que c'est ce qui se traduit dans qu'est-ce que les gens regardent et qu'est-ce que les gens écoutent. Moi, à part les moments où il faut comme valider le contenu, je les écoute plus, les podcasts. Donc, j'aime
ouais,
pas
c'est
ça.
Fini.
Je passe à autre chose. Je critique pas mon propre travail où je me critique en y repensant, mais j'ose souhaiter que les gens ils sont présents. On m'a déjà dit que certaines personnes ont l'impression d'être un peu comme un fly on the wall, comme une mouche sur le mur, puis d'être présent comme s'ils sont dans la salle. Si c'est ça, moi, c'est un plus grand cadeau. Puis quand les participants et participantes arrivent et disent « j'ai une belle conversation », tant mieux. Puis en fait, un autre aha, je nommerais, là, c'est le fait que ça m'arrive que les invités le nomment, ils disent « ah, ça fait du bien cette conversation-là ». J'en ai eu des invités qui disent « on dirait que c'est comme une séance de thérapie ». Je ne m'improvise pas thérapeute, là, mais s'il y a comme une libération qui se fait dans la parole, et moi, je pense que c'est une invitation pour moi à dire « ouais, mais OK, au-delà du podcast, d'accorder ces moments-là d'écoute et de qualité aux gens avec qui j'interagis, que ce soit au travail. Des fois, je suis très rapide à ne pas écouter ou à ne pas être patient avec mes parents, par exemple, quand ils me parlent. Ben, pourquoi ne pas prendre le temps de leur accorder le même niveau d'attention que quand je suis avec mes invités dans un podcast? »
Puis justement, quand on parle de d'écouter, de prendre le temps, je me demande comment est-ce que tu vois ça, la question d'aborder des questions comme le profilage racial au Québec, le racisme systémique. Tu sais, par quel moyen est-ce que tu penses que ça fonctionnerait mieux? Est-ce que justement, il faudrait peut-être sortir des sentiers battus, pas nécessairement aller vers les médias traditionnels? Est-ce que c'est justement par des choses comme des podcasts? Est-ce que c'est un mélange de tout? Qu'est-ce que tu penses de ça au niveau de la question, par exemple, du profilage racial au Québec?
Ouais. Je pense que c'est un mélange de tout. Donc ça, c'est une des choses. Je pense aussi que on peut... Force est de constater, en fait, que... moi, je crois qu'il y a du progrès, même si le progrès n'est pas tout à fait perceptible à certains égards. Le simple fait que chaque semaine, on entend parler d'enjeux liés au racisme, pas uniquement quand il y a des scandales, mais on en parle régulièrement. Avant, c'était quasi inexistant. Là, il y a comme, c'est normal que dans les mouvements sociaux, il y ait comme des avancées, des reculs, ce soit un peu chaotique, je dirais. Mais il y a du progrès minimalement au niveau de l'opinion publique ou de la pensée. Après, ça doit se décliner dans les structures, etc. Donc, des programmes très concrets, mais la pensée collective, elle évolue selon moi. Puis, je pense qu'une des choses, c'est le fait qu'on ne contrôle pas malheureusement, tous les facteurs qui vont générer ces changements-là, on référait ne serait-ce que le soulèvement suite au décès de George Floyd, ben, ce ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de pandémie, selon moi. Ben, c'est l'interaction de toutes ces choses-là qu'on ne contrôle pas qui génère ces situations-là. Mais il faut être prêt quand ces choses-là arrivent. Donc, s'il y a des individus et des groupes qui sont très proactifs, autant dans la sphère des médias traditionnels que les réseaux sociaux, à prendre parole et à être impliqués, quand ces vagues-là arrivent, on peut la capter, la vague, et continuer à avancer. Et je pense qu'on est l'ensemble des différentes communautés qui subissent le racisme à différents égards, en train, il y a des choses qui sont organisées, d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que cette organisation-là qui se génère, elle est essentielle. C'est que quand on parle des réseaux sociaux, de plus en plus, on voit le pouvoir des réseaux sociaux parce que les réseaux traditionnels, les médias traditionnels qui laissent dans leur structure relativement peu de place encore, même s'il y a de l'évolution au niveau d'une diversité sur tous ces angles, par rapport à tous les sujets maintenant, souvent, les réseaux sociaux, en fait, nourrissent les médias traditionnels. Sur mon podcast, j'ai reçu Mme Andrissi qui le nommait. TikTok, Instagram sont devenus les sources pour maintenant influencer les médias dans les choix d'articles qu'ils vont couvrir. Donc, les personnes qui veulent s'exprimer sur ces questions-là, c'est une évidence que de se saisir des tribunes est essentiel. Maintenant, moi, je pense que ça demeure pertinent de le faire avec intégrité, de le faire avec rigueur. Les réseaux sociaux ne nous imposent pas une rigueur journalistique, mais quand on prend parole sur ces questions-là, je pense que c'est important de se donner, en fait, une éthique de comment on communique. Un autre défi par rapport à ça, c'est le fait que les algorithmes ne sont pas faits non plus pour la nuance, donc ils sont faits pour attirer aussi les scandales. Mais moi, j'ai une préférence à ce que, oui, d'avoir des messages qui captent l'attention, mais à condition que ce soit des messages qui demeurent rigoureux dans leur pensée, parce qu'un message rigoureux dans la pensée permet de construire des débats solides. Et si on est dans la viralité strictement, sans nécessairement avoir une profondeur, on rend peut-être pas nécessairement service, en fait, à la construction d'une compréhension commune de où on veut s'en aller.
Mm-hmm. Puis on peut facilement aussi tomber dans des chambres d'écho, puis tomber dans du contenu qui comme confirme un peu ce qu'on pense tout le temps, puis jamais sortir.
Aussi. Puis peut-être par rapport à la question du profilage racial spécifiquement, c'est sûr et certain que c'est important que les gens continuent à documenter puis à partager qu'est-ce qu'elles vivent par rapport aux différentes situations, parce que ce sont ces situations-là, quand on les voit, quand elles sont filmées, quand elles sont, quand on les prend, quand elles sont documentées, elles font parler. Moi, c'est pour savoir aussi, être informé sur qu'est-ce qui peut se passer dans les sphères, comme par exemple les milieux policiers, ça crée aussi une énorme pression sur ces corps-là. Et loin de moi l'idée ici de déresponsabiliser les corps policiers. Et je pense que ça fait écho à ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est de continuer à dénoncer et continuer à dénoncer quand il y a effectivement des situations qu'on trouve injustes. Et les réseaux sociaux, en fait, mobilisent tout le monde. Ça, c'en est un défi. Mais il existe par contre des situations où des fois, on va peut-être créer au profilage et c'est peut-être pas tout à fait du profilage. Donc, il y a quand même des débordements. Puis dans tout ce brouhaha-là, ça crée de la pression pour les institutions. Mais moi, j'ai une préférence qu'il y ait des débordements et qu'on gère après ça de manière structurée dans les institutions. Comment est-ce qu'on en parle? Que de tuer la voix des individus.
Absolument. Puis justement, on a aussi pris connaissance de l'ouvrage 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique, dont vous êtes co-auteur. Puis justement, ça définit, ça éclaire le terme de racisme systémique. est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de, justement, la reconnaissance de ce racisme systémique, puis on pourrait peut-être terminer là-dessus.
Oui. Mon opinion, c'est que répondre à un enjeu ou adresser une problématique, ben, c'est préférable de la nommer, puis d'être capable de pointer ce dont on parle. Réparer une table, ben, on va dire, on va réparer la table, puis on sait c'est quoi, qui est un meuble, etc. Donc, réparer une chaise, on sait c'est quoi, puis on peut pointer le phénomène pour en parler de manière nuancée. Le fait de ne pas reconnaître le racisme systémique, à mon sens, et de ne pas en plus s'engager dans un exercice de définir ce dont on parle, fait en sorte qu'il y a de la confusion, parce que ce soit de ne pas le reconnaître, mais même de le reconnaître sans le définir, ça crée un cul-de-sac. Et même quand on reconnaît le racisme c'est quoi? Un système c'est quoi? Et la combinaison des deux c'est quoi? Je pense que ça m'apparaît essentiel de parler de ça de manière informée et nuancée. Et ce que ça ouvre comme possibilité, c'est de prendre action de manière cohérente en lien avec toute la complexité de ce dont il s'agit. Si on prend l'exemple de la consultation publique sur le racisme systémique qui a eu lieu, et le racisme et les discriminations systémiques qui a eu lieu menée à Montréal par l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, ben, ça a donné lieu à un rapport de 38 recommandations, dont la reconnaissance du racisme systémique, dont la création d'un bureau de la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, excuse-moi. La ville de Montréal, d'ailleurs, cette semaine, a communiqué ses 12 engagements pour 2022 qui vont aux questions d'embauche de personnel, donc de leadership interne de la ville de Montréal, aux questions d'équité territoriale et économique, de savoir comment l'urbanisme a un impact sur les populations racisées. De reconnaître le racisme systémique permet d'aller dans toutes ces nuances-là. Maintenant, je nommerais aussi le fait que une critique par rapport à la ville de Montréal, c'est est-ce qu'on est capable aussi de parler de ces questions-là avec plus de... Des fois, on parle beaucoup de processus puis de grands principes ou de nuances, ce qui est essentiel, mais des fois, on peut dire est-ce qu'on peut aller dans le plus concret, dans certaines cibles quantitatives par rapport à certains dossiers. Mais n'empêche que, indépendamment de cette critique-là, de pouvoir nommer le racisme systémique permet de réagir de manière cohérente et de manière nuancée et complexe. Et puis d'ailleurs, tant qu'à le faire, peut-être nommer rapidement, on parle de quoi? Moi, à mon sens, pour moi, le racisme, c'est d'abord et avant tout, on parle de un construit social. Qui date en fait de plusieurs générations et qui mène vers une oppression de certains groupes, une infériorisation de certains groupes en partant du postulat que c'est malgré le fait qu'on aurait souhaité qu'on considère qu'il y ait une race humaine, ben il y a des personnes qui ont créé l'idée ou générer l'idée qu'il y a des groupes qui sont inférieurs par rapport à d'autres. Donc, partant de ce point de départ-là, on voit l'enjeu. Mais en fait, la question systémique dans tout ça provient... et là, il faut parler de c'est quoi un système. Et la définition très simple que j'offrirais, c'est le fonctionnement des choses dans un périmètre donné. Donc, il existe un système digestif comme il existe un système forestier, comme il existe le système municipal. Donc, chaque fois qu'on prend un périmètre, qu'on prend tout ce qui fonctionne dans ce périmètre-là, c'est ça un système. Et l'ensemble des dynamiques personnelles, interpersonnelles, les comportements qu'on a, les structures qu'on met en place, les cultures, c'est éminemment complexe. Donc, quand on parle de racisme systémique, c'est toutes les ramifications nuancées de ces phénomènes-là qui fonctionnent de manière organisée, désorganisée. Mais c'est anxiogène, en fait, d'en parler comme ça, parce qu'on se dit, OK, comment on va l'adresser, le problème? Mais il peut pas avoir une seule solution. Et c'est, je pense, là aussi, le piège ou la réticence que certaines personnes pourraient peut-être avoir de dire, my God, on veut pas s'embarquer là-dedans. Mais on le fait par rapport à un ensemble d'enjeux. Des fois, il faut confronter les enjeux de manière multifacette. Et le racisme, pour moi, c'est nécessaire de le faire de cette façon-là. Sinon, on va toujours, en fait, réduire ce que c'est puis avoir des solutions qui sont en surface.
Exactement. C'est comme mettre un band-aid sur une plaie ouverte. C'est pas ça qui va nous aider à régler le problème. Oui, absolument. Ben, sur ces mots, je tiens à te remercier pour l'entretien. C'était super, super intéressant. Puis je pense que ça nous donne des petites pistes de réflexion en tant que société sur comment aborder ces questions-là. Et justement, l'importance de nommer les choses. Aussi, apporter la nuance que systémique et systématique, ce n'est pas la même chose. Donc, peut-être comprendre que systémique, ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste tout le temps. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Exact. Mais vraiment de comprendre la complexité des systèmes et des interactions sociales, là, de manière générale. Donc, merci beaucoup d'avoir fait un petit tour au podcast de la clinique et au plaisir de suivre un peu vos futurs projets.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
All right. Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
C'est enfin le retour des sourires. De tous les sourires. Le sourire timide, le franc, le fendu jusqu'aux oreilles, le poli, le crispé, le complice et le doux. Parce que le port du masque n'est plus obligatoire au Québec, sauf dans les transports collectifs, dans les établissements de santé et durant les jours suivant votre isolement si vous avez eu la COVID-19. Si vous en sentez le besoin, portez-le sans hésiter et faites-le avec le sourire. Un message du gouvernement du Québec.
Swanee Parolpopolo is back and in real life for its 22nd edition. All the sights, sounds and sensations of live music. After 2 years of online adaptation, Swanee is filling up the month of June with liberated music of all genres. Over 45 events and 90 participating artists performing indoors, outdoors, streamed for maximum accessibility. Record and book launches, workshops, a puppet show, a satellite Swanee happening in Wakefield, Quebec, of all places, and, of course, much more. For all the goodies, check out swaneeparolpopolo.org. Masks will, of course, be required. For your audio program guide, tune in to the Montreal Sessions, Tuesday, May 24th, May 31st, and June 7 and 14th, from 3 till 5 p.m. The Swanee crew hosts will be serving up highlights of what to expect at this year's festival. This is, of course, a CKUT co-presentation.
Hello, this is CKUT. Stay tuned for Queercore, coming up next. And in the meantime, we're going to listen to an album called Hopefully Limitless by Amer Asu. Keep it locked. This is CKUT 90.3 FM.
I wish I wasn't so